Bienvenue à tous, bienvenue à Black & Blue. Françoise Cordet assure avec brio la mise en scène de cette émission. Stéphane Touvenin, qui n'est pas le Touvenant, va participer derrière la console à sa concrétisation sur les ondes. Et Georges Pagzinski interviendra par là au milieu avec verve et autorité. C'est ce soir le deuxième chapitre de l'histoire du piano que je lui ai demandé de lire en diagonale. Tout de suite, celle des enregistrements de jazz vocal abordés, comme il se doit, à tort, à travers et par le petit bout de la lorgnette, par qui, je vous le dirai bien, mais à mon âge, la maîtrise des noms propres n'est plus ce qu'elle fut. Le temps où les chanteurs avaient de la voix. Ce temps-là, c'était hier, c'est aujourd'hui, ce sera demain. C'était hier avec Little Jimmy Rushing, dont il sera question ce soir, et avec tous les autres blues shouters. Ce sera demain parce que même la perspective du cercueil ne fera pas renoncer certaines femmes et certains hommes à avoir du coffre. Mais remontons d'abord aux années 20. Le microphone n'existait pas, on ne connaissait pas non plus le sens de l'expression chanteur à voix, pour la bonne raison que si vous n'aviez pas de voix, vous ne pouviez même pas rêver de chanter en public, et cela pour une raison des plus désarmantes. Personne ne vous aurait entendu. C'était une époque où l'on devenait vocaliste à la force de ses poumons. Seul un authentique athlète, une force de la nature, pouvait prétendre se faire une place à la lumière des projecteurs, même s'il était spécialisé dans la chanson sentimentale et le romantisme à tout craint. Dure école, on le conçoit, que celle qui vous obligeait, équipée d'un mégaphone, dans le meilleur des cas, à tenir tête aux sections d'un big band pour faire rimer toujours et amour avec quelques chances de capter l'attention des danseurs du samedi soir, qui eux-mêmes ne cherchaient pas précisément à se faire discret pour vous faciliter la tâche. Être stentor ou mourir. Dans les beuglants de l'époque, c'est assez cocasse. Nul ne beuglait davantage que les pousseurs de rengaine. Des beuglants, il y en avait de gratinés dans le bas quartier des villes au temps de la Prohibition, des endroits où l'on risquait presque aussi facilement sa vie qu'au Tin Type Hall de Storyville, au temps chaud pendant lesquels Buddy Bolden était roi. Le jour, note un historien, l'établissement servait de morgue, on y exposait les piliers de cabaret et les fêtards tués au cours de la nuit précédente. C'est dans ces endroits souvent peu recommandables, en tout cas jamais des plus sélects, que James Andrew Rushing, dit Jimmy, né à Oklahoma City le 16 août 1903, avait effectué son apprentissage. Il deviendrait un jour l'empereur, le vivant emblème des blues shouters, des hurleurs de blues, mais ce fait remarquable ne doit pas nous faire oublier qu'à ses débuts, toutes chansons se hurlaient, même les roucoulades s'exprimaient à coups de vociférations. Du reste, tous ses vieux amis s'en souvenaient, Jimmy, à ses débuts, ambitionnait d'être un interprète de ballades. Sans doute parce que ce garçon, que la nature avait rendu aussi large que haut, on l'appellerait bientôt Mr. 5x5, Monsieur 5 sur 5, 5 pieds sur 5 pieds, 1m50 dans un sens, 1m50 dans l'autre. Sans doute parce que ce garçon abritait sous une épaisse couche de panne l'âme d'un séducteur impénitent. Là encore, on ne lui faciliterait pas les choses, mais il bataillerait dur pour ne jamais s'en séparer. Il y eut en lui, jusqu'au dernier jour, un crooner rentré qui sortait dès que les inconditionnels du gros bleu qui tâche relâchaient leur surveillance. La pianiste Patty Brown, qui se produira aux côtés de Mr. 5x5 une dizaine d'années plus tard, dira de lui, oh, avec plus de tendresse que les mots n'en laissent deviner, il déambulait avec fierté, tel le coq de la basse-cour, comme le général Rommel en personne. D'une autre pianiste, Mary Lou Williams, nous tenons des confidences un peu plus révélatrices. Contrairement à la plupart des blues shouters, il savait lire la musique. Je précise qu'à ses débuts en Californie, il avait été pianiste de maison close. Et, reprend Marie-Lou, sans micro, il se faisait entendre à 10 pâtés de maison de distance. Aux épouses des musiciens et à moi, je me souviens qu'il jouait du piano et interprétait de merveilleuses ballades quand il ne nous faisait pas rire avec ses histoires lestes, tout content de nous voir rougir. Quelqu'un raconte encore que le volumineux Jimmy Rushing perchait sur son crâne un chapeau qui paraissait toujours trop petit pour son énorme face de lune, un chapeau de bonhomme de neige. De passer du porte-voix au microphone ne l'avait pas dissuadé de hurler le blues ou quoi que ce fût d'autre, si hurler est le mot qui convient pour traduire le fait de s'exprimer avec ferveur et conviction sans s'économiser jamais. Le producteur, promoteur, mécène et critique John Hammond dira de lui qu'il était l'un des très rares jazzmen de sa connaissance qui, toute sa carrière durant, pas une seule fois ne se montra inférieur à sa réputation. Ce qui revenait à se maintenir à un niveau d'exigence artistique plutôt vertigineux, si l'on songe que dans la catégorie poids lourd où il exerçait, personne ne parvint jamais à lui tenir la dragée haute. Il chantait avec swing, écrira quelqu'un, l'aria du sous-prolétaire. La mémoire d'un peuple chantait avec lui, il faisait trembler les vitres de toute la colère contenue et de toute la terreur secrète des ghettos noirs de l'Amérique.
When shadows fall and trees whisper day is ending, my thoughts are ever wending home. When cricket call, my heart is forever yearning, once more to be returning home. When the hill conceals the setting sun, stars began to peeping one by one. Night covered all, and though fortune may forsake me, sweet dreams will ever take me home.
comme dirait l'autre, ce n'est pas toujours juste, mais c'est toujours vrai. Et du coup, c'est toujours juste ce qu'il faut. Une romance interprétée par Jimmy Rushing lors de sa toute dernière séance d'enregistrement officiel au mois d'avril 1971. Il mourrait de leucémie l'année suivante. Home, que chantait déjà Louis Armstrong en 1932. Jimmy Rushing avait à ses côtés, entre autres, Ren Hans au cornet à piston, Dave Frischberg au piano. Frischberg était aussi l'arrangeur de la séance. Et surtout, on ne pouvait pas ne pas le remarquer, Zoot Sims au saxophone ténor. Alors, Georges, l'histoire du piano en diagonale, et vous avez choisi un musicien qui est en piste depuis plusieurs décennies déjà, qui aurait pu être l'homme du jour il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, et qui se trouve avoir été cette année, enfin au début de l'année, donc au milieu de la saison dernière, quelqu'un qu'on a pu entendre à Paris, après qu'il ait réalisé quelques disques étincelants, et je n'en citerai que deux parmi les derniers, un duo avec Jim Hall, et une pièce en trio avec les deux musiciens qui l'accompagnent lorsqu'il se trouve en France désormais, Hein van de Geyn à la contrebasse et André Ceccarelli à la batterie. André Ceccarelli, à qui, je crois, il faut adresser les plus vives félicitations, parce que compte tenu de ce qu'a été sa carrière et quand on sait ce que sont devenus nombre de musiciens, qui avaient notamment des batteurs, qui avaient été obligés par les circonstances de faire énormément de studios, ce fut le cas de Don Lamond, par exemple, leur sensibilité, leur sens poétique s'était émoussé, et bien pas du tout avec lui, hein. Et en particulier avec Enrico Pieranunzi, il est, me semble-t-il, d'une finesse et d'une intelligence tout à fait remarquables. Il faut dire qu'il se plaît en sa compagnie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans le disque, quand vous entendez quelqu'un grogner, il ne faut pas vous demander qui c'est Ceccarelli. Bon, à vous, mon cher.
Mon cher Alain, d'abord, lors de notre émission précédente, nous avions parlé de Bill Evans, vous vous souvenez, des derniers enregistrements de Bill Evans, et je ne vous avais pas remercié de m'avoir proposé le piano pour cette année, j'allais dire universitaire. Parce que c'est une année complète que nous avons ensemble sur le piano, et je vous en remercie vivement, parce que vous savez tout l'amour que je porte à cet instrument, et que mon rêve, c'est ça, d'en jouer, comme disons, un musicien complètement comme Jack DeJohnett ou comme Ahmad Jamal. Évidemment, c'est un rêve, mais j'adore cet instrument pour plein de raisons. Alors, il y a une autre chose, vous vous souvenez d'une autre émission que nous avions faite sur un livre, cette fois, et sur un pianiste que nous aimons tous les deux, ô combien, c'est Kenny Werner et son livre, c'était La maîtrise sans effort. Et vous vous souvenez que nous avions évoqué le fait de s'affranchir de la peur et qu'il y avait, alors il y avait une chose qui va être le point de départ de notre émission aujourd'hui, en parlant d'Enrico Pieranunzi, bien entendu, il y a quand même une chose de fond qui est le départ de la proposition que je vous fais ce soir. Voilà ce que nous dit notre ami Kenny Werner. Il nous dit, il y a toujours un écart entre ce que notre ego veut jouer et ce que nous aimerions entendre sortir. Or, c'est de cet écart dont je vous propose de m'entretenir avec vous. Il se trouve peut-être quelques mots sur Enrico Pieranunzi, si vous voulez bien, qui justifie notre point de vue aujourd'hui. Vous saviez, et je sais que vous le savez, mais il est né en 1949. À 5 ans, il commence l'étude du piano. Mais surtout, et c'est ça qui m'a paru tout à fait intéressant, il entame une activité de concertiste classique en 1972. Et après, il joue du jazz, etc. Mais en 1978, il commence à donner des leçons de piano classique au conservatoire de Frosinone. Et ensuite, il joue avec Jim Hall, Griffin, avec tellement de musiciens. Vous évoquiez tout à l'heure le trio avec lequel il se produit en France. Et il a également le trio avec Mark Johnson et Joey Barone, ou Paul Motian également. Trio international, il a un trio italien également. Enfin, sa formule, et on le lui a reproché, c'est de faire un petit peu, c'est ce que reproche le dictionnaire du jazz. D'ailleurs, on lui relève certains accents chers à Bill Evans. Ça a l'air d'être un reproche. En fait, il a évidemment une parenté avec Bill, mais il y a aussi l'autre point de départ de notre entretien aujourd'hui, Alain, c'est ce petit entretien qu'Enrico Pieranunzi a donné à la fin de cet ouvrage qu'il a écrit sur Bill Evans. Et je vous livre cette
Rouge
phrase.
Profond. Hein.
Rouge profond, voilà. Et je vous livre cette phrase, qui est ce point de départ, et après nous allons écouter de la musique. La puissance narrative d'une mélodie est considérable. C'est l'un des grands mystères de la musique. La possibilité de donner vie à un récit sans se servir des mots. C'est comme si la mélodie possédait des mots silencieux qui la font devenir chant. Mais, pour y parvenir, il faut s'y adonner totalement. En cela, certainement, Bill Evans était un maître. Et faire chanter le piano, comme il savait le faire, n'est pas si simple. Et faire chanter le piano, c'est quoi? Eh bien, je vous propose d'abord, avant toute chose, de l'écouter.
Thank you.
Mon cher Alain, c'était donc le trio Enrico Piranesi avec Charlie Haden et Billy Higgins. Vous ne l'auriez pas cru, n'est-ce pas, Billy Higgins?
Effectivement, si je jouais dans un blindfold test, je n'aurais jamais trouvé. Pourtant, Dieu sait que à la fois j'adore Billy Higgins et j'adore ce que je viens d'entendre, mais je n'aurais pas pensé à mettre les deux ensemble, en relation.
N'est-ce pas? Et quel magnifique batteur. Nous sommes le 26 avril 1990 à Milan et le morceau était une composition de Piranesi qui s'intitulait « Je ne sais quoi ». Or, en fait, dans la musique, vous savez, il y a ce travail inconscient, puis il y a le travail conscient, et puis il y a se mettre en état de conscience, se mettre en état d'inconscience également, puis il y a l'état de subconscient, c'est-à-dire le résultat du dédoublement de l'artiste qui fait que, flottant dans une sorte de rêve, il forme un double avec lui-même qui agit à travers sa personne. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un corps, vous avez un instrument, vous avez un espace, vous savez que c'est mon idée fixe complètement, et puis vous avez ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le toucher. Le toucher, alors, c'est curieux, parce qu'au départ, le verbe lui-même, toucher, avant de devenir substantif, le mot signifiait d'abord l'action de jouer, n'est-ce pas? C'est extrêmement intéressant. On touche, on disait toucher du piano, comme on touche le clavecin, vous voyez. Et après, c'est devenu le substantif, le toucher, qui désigne cette manière de jouer d'un instrument à clavier, donc d'attaquer, d'enfoncer et de lâcher les touches. Alors, avec des techniques du bras, de l'avant-bras, du poignet, de la main et des doigts. Et là, il y a le fait fondamental de rechercher du son, une qualité d'attaque, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la qualité de l'attaque de la note. D'ailleurs, le mot attaque n'est pas très très bon, parce que ça suppose qu'il y a déjà une sorte d'agression vers la note, ce qui n'est pas du tout le cas justement de Piranesi et de certains grands pianistes qui ont un toucher exceptionnel, voire Fania's Newborn ou Ahmad Jamal. Et Enrico Piranesi est à lui seul, comme nous l'avons entendu, un mélodiste extraordinaire, mais il a aussi un toucher tout à fait extraordinaire, une palette. Voyez-vous, c'est ça. Il a un éventail, une palette de qualité sonore qui est superbe, des plans sonores successifs qui sont superbes. Et quand on dit qu'un piano, c'est un orchestre en réduction, c'est vrai. Il y a la mélodie, il y a ce qu'il y a derrière, il y a le fond du tableau, le devant du tableau, les personnages, les fonds, les paysages, tout ça. Il y a tout ça. C'est pour ça que j'adore le piano. On essaie de rendre ça à la batterie, mais on est totalement un peu impuissant parce qu'il n'y a quand même pas l'harmonie qui est là derrière, la verticalité et en même temps ce flux mélodique qui est superbe. Et de créer cette mélodie sur ces 88 notes, ça c'est incroyable. Alors il y a des signes d'attaque. D'abord, il y a les signes de façon, on dit le lié, le legato, après on parle du tenuto, du tenu, du portato, porté, du staccato, du détaché, l'accentuato, accentué, appoggiato, appuyé. Enfin, il y a toute une manière d'apporter ce clavier que moi, j'essaye de transposer dans le travail de la batterie, d'ailleurs, par des certaines techniques de travail de doigts, etc., dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, vous voyez, il y a aussi cette combinaison, moi, qui me fascine. Il y a ce que nous entendons, ce que l'artiste nous donne. C'est-à-dire qu'on entend la mélodie, on entend ce triomphe sublime. Et en même temps, il y a tout un travail derrière. Et ce travail, c'est un travail qui est un travail, j'insiste là-dessus, un travail manuel. C'est un travail d'artisan, artiste, artisan, un travail manuel. Et c'est ce corps que l'on a qu'il faut apprendre à entretenir, à forger et à entretenir. Et moi, ce qui me fascine dans le piano, c'est cette approche avec les 10 doigts. C'est-à-dire avec les 10 doigts d'une façon visible, et d'une façon invisible, l'utilisation du corps tout entier, d'une façon extraordinairement invisible et physique extrêmement présente. Alors c'est ce hiatus, vous voyez, qui moi me fascine complètement.
Je voulais juste raconter, à qui ne la connaîtrait pas encore, une toute petite anecdote, parce qu'elle fixe bien les idées à propos de ce que vous venez de dire, sur le travail physique. Arte Tum n'était pas un homme, au départ, si doué que ça. Preuve en est que lorsqu'il vint à New York pour la première fois de sa vie, il se fit étendre par tous les musiciens de la ville et il repartit très vite dans son pays natal, à Toledo. Là, il travailla, mais lorsqu'il revint et qu'il triompha d'absolument tout le monde, il cessa de travailler le piano. Mais en revanche, il n'arrêtait jamais, pas une seconde, de retourner une noix de pécan entre ses doigts.
C'est magnifique.
Et tout ce travail physique était finalement sa seule façon de se préparer à jouer du piano de la manière ébouriffante dont il en joue.
Alors, vous ne pouvez pas savoir, vous venez de bouleverser mes plans. J'ai des papiers, j'ai des papiers devant moi.
Qu'est-ce et que vous... je suis content.
Non, vous avez bouleversé tout ce que j'allais dire, parce que il y a ce que vous venez de faire, et vous venez de faire un geste, c'est dommage que nous ne sommes pas à la télévision, vous venez de faire un geste absolument capital. Vous venez de faire ce geste-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire de malaxer n'est-ce pas, comme vous avez dit,
malaxé du bout des doigts.
Du bout des doigts, voilà, le malaxé. Et en fait, un geste que l'on peut faire quand on peut avoir de la pâte à modeler, par exemple, n'est-ce pas, voyez. Or, il y a un ouvrage qui est passionnant, qui est extrêmement intéressant, de Paul Loyonnais, qui s'appelle « Les gestes et la pensée du pianiste », et il évoque les automatismes qui réveillent la mémoire subconsciente. Il parle du fait des expériences intérieures, et je vous cite le mot, les expériences intérieures accumulées. Or, notre artetum que vous évoquiez, par le fait de faire ça, c'était quoi? C'était de se forger une musculature, mais pas uniquement des doigts. C'est-à-dire de savoir que dans son inconscient, dans son conscient, il a le piano devant lui, et en même temps, il travaille, comme par exemple le danseur à la barre, il travaille des choses avec la perspective que maintenant je vais expérimenter la façon dont mes doigts vont sentir le clavier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. C'est à chaque fois, c'est une découverte. Parce que nous n'avons jamais le même corps, et qu'à chaque fois qu'un instrumentiste joue une note, à chaque fois, c'est une surprise. Du moins, la première note. Après, on fait avec, n'est-ce pas? On ne sait jamais ce qui va sortir de l'instrument. Vous voyez, et c'est ça, moi, qui me fascine. C'est ce travail invisible. Ça, c'est le fondement du travail de l'artiste.
Oui, il est très intéressant de voir qu'une expression qui, depuis une vingtaine d'années maintenant, avant elle était beaucoup moins usitée, une expression dont on se sert très souvent pour qualifier le travail des sportifs, on dit il a eu un petit accident, on lui a réparé le ménisque, mais ça y est, il a retrouvé ses sensations.
Alors voilà.
C'est très exactement. Bon, même moi qui ne suis qu'un tout petit joueur de quartier, je sais que lorsque je joue encore plus mal que d'habitude, c'est parce que justement, je n'ai plus mes sensations.
Je ne retrouvais plus. Voilà. Alors voilà. Alors donc, il faut retrouver ces sensations, les reconnaître d'abord, les retrouver et ensuite les améliorer, ces sensations. C'est affiner la sensation tactile et la sensation, mais vraiment physique. Et c'est une amélioration qui n'est pas sur commande. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on la reconnaît à un certain niveau et après, elle disparaît, elle revient presque un peu cachée, un peu surprenante, et on est continuellement surpris par soi-même. C'est-à-dire que le travail d'un instrument de musique devient quelque chose de fascinant, non pas par les notes que l'on joue, mais par la façon dont on aborde ces notes et la façon dont on va, et on va en parler tout à l'heure, la façon dont on les sent, ces notes, et la manière dont on les sent physiquement.
C'est-à-dire que ce qui est très pénible pour l'ego, lorsqu'on s'essaye à jouer d'un instrument de musique, c'est que, tour à tour, les mêmes choses sont ou trop faciles, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui les fait à votre place, ou trop difficiles.
Alors, ça c'est très vrai aussi, c'est que il y a en fait une manière de s'y prendre, et il y a une manière de travailler la musique. Il y a une manière d'aborder la musique avec ce gouffre, j'insiste, ce gouffre qu'il y a entre cette sensation physique et la sensation que l'on procure à l'instrument qu'on a devant soi, et c'est valable pour tous les instruments. Alors je vous propose
la preuve, d'ailleurs, une petite chose, preuve qu'il s'agit bien de sensation, c'est-à-dire que c'est au niveau du sujet que ça se passe, c'est que lorsque les sensations sont là, un grand musicien tirera la même musique d'instruments très différents.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on lui mette la batterie Dupont ou la batterie Durand entre les mains, absolument, une trompette de tel facteur ou une autre, c'est exactement la même chose qu'on entendra.
Absolument.
Une preuve classique, Charlie Parker jouant d'un alto en plastique à $30.
Voilà,
il est totalement impossible d'entendre la différence.
Absolument, tout à fait. Alors je vous propose d'écouter un petit peu de musique avant d'aborder la chose peut-être la plus importante qui nous attend après. Une composition qui était au programme de Bill Evans Trio bien souvent, Polka Dots and Moonbeams. Et là, nous avons cette interprétation par le trio Pierre Annunzi, Billy Higgins et Charlie Adam. Thank you. Enrico Piranunzi, Charlie Haden, Billy Higgins, et nous sommes, mon cher Alain, le 26 avril 1990 dans un studio de Milan. Alors, simplement, il y a cette préoccupation qui m'habite, c'est alimenter constamment le travail corporel par une lecture, et cette lecture qui alimente la réflexion, pour pouvoir à nouveau revenir au travail sur le corps et à nouveau améliorer la sensation. Alors il y a par exemple un ouvrage de Dominique Opneau, qui est un grand classique maintenant, qui s'appelle « Le violon intérieur », où elle parle de l'expression, j'espère qu'elle va vous plaire Alain, « accorder son corps » ou la sensation comme une conscience corporelle, et elle parle de justesse intérieure, voilà, qui est très bien vue. Et elle parle également le fait que plus un artiste a de talent, plus sa technique est possédée, maîtrisée, et plus il en prend soin. Oui, plus il en prend soin en vue d'améliorer ses qualités intérieures. Avoir amélioré ses qualités intérieures. Et on n'en avons toujours pas joué une note, n'est-ce pas ?
Je crois qu'il faut comprendre une chose, on parlait des sensations tout à l'heure, et oui, vous en reparlez maintenant,
oui,
c'est qu'en général, on conçoit la sensation comme quelque chose de passif, quelque chose qui se reçoit. Or là, il s'agit d'une sensation féconde, d'une sensation active qui est productrice d'un certain nombre de modifications dans l'individu.
Absolument. Et là, je vous fais appel à un ouvrage que je trouve tout à fait capital et dont je ne vous cache pas que la lecture m'a totalement fasciné. Je la dois d'ailleurs, cette lecture, à notre ami Georges Plodermacher, qui m'a dit « Oh, écoute, il y a 20 ans, moi j'ai lu un livre, je suis sûr que ça va t'intéresser. Oh, écoute, c'est un homme qui est maintenant un homme qui a 73 ans, qui habite dans le centre de la France, il s'appelle Bertrand Hott. Je cherche son numéro de téléphone, je l'appelle, je l'ai au bout du fil. » Et tout à coup, il me dit « Mais oui, cet ouvrage est épuisé, malheureusement, mais il va y en avoir une nouvelle édition. » Et j'ai eu ce livre qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle « Liszt et la pédagogie du piano » de Bertrand Hott. Or, première édition 78, deuxième édition décembre 2005. C'est un travail de fond pour comprendre physiquement comment cet homme, qui était un prodige du clavier, est arrivé à avoir toute cette palette de sonorités et cette palette extraordinaire de finesse. Or, il a découvert une chose tout à fait extraordinaire, c'est que l'on n'attaque pas le piano avec les doigts grâce au caricaturiste. Il a évoqué le travail du clavecin, ou dans lequel le clavecin, on glisse les doigts sur le clavier. On n'attaque pas les doigts perpendiculairement au clavier, on glisse sur le clavier. Et le fondement de son travail est qu'il dit à la page 132, seule une relation affective entre l'instrument et l'interprète donne son prolongement à la musique et à l'aisance organique du pianiste. Et voilà les phrases importantes. On ne pousse plus les notes, on les prend, on les tire, on glisse sur les touches, on les saisit, on puise le dynamisme dans le clavier que l'on ramène à soi. Autrement dit, Alain, mettez votre main sur cette table, voilà, et avec vos doigts allongés, vous ramenez vers vous les doigts. Et Georges m'a fait, il m'a montré l'exercice, il prend tout le clavier et il ramène les doigts en enfonçant vers lui, n'est-ce pas ? Et là, il y a toute une musculature qui se forme. Et puis après, vous expérimentez cette musculature, vous l'expérimentez sur le... Puis tout à coup, le clavier chante. Et ce qui est extraordinaire, vous jouez n'importe quelle note et ça chante. Et Bertrand Hott ajoute, ce qui ratifie le mouvement suspensif de préhension, comme si on voulait établir une force vitale de la base des doigts vers le haut de l'épaule, ainsi que la sève d'un arbre montant de ses racines vers son faîte, et le corps entier bénéficie de ce geste, instaurant par conséquent un courant d'énergie partant du sol jusqu'à la tête.
C'est très intéressant, ce type de métaphore, je dirais, paradoxale. Hein, et j'en connais une autre qui va vous rappeler quelque chose. C'est une métaphore qui a été utilisée dans une vidéo pédagogique largement distribuée dans le monde de Peter Erskine.
Oui.
Et Peter Erskine explique que pour bien jouer le tempo à la batterie, oui, il faut le jouer comme un contrebassiste, c'est-à-dire obtenir ce qu'on ne peut obtenir d'aucune cymbale, et non pas ding, ding, ding,
alors,
ding.
Voilà, alors ça, c'est vous venez de toucher... Voilà.
Arrondir une note, alors qu'il est impossible d'arrondir une note sur une cymbale.
Alors, c'est arrondir le son, c'est rendre le son... Alors le mot est lâché, c'est la préhension et rendre le son généreux. Vous voyez, il y a une sorte de générosité qu'il faut avoir, une sorte de... Exactement quand on prend une femme, j'allais dire, c'est un acte d'amour, où vous prenez quelqu'un, vous prenez un fruit que vous aimez, vous le prenez, et le fait de prendre est beaucoup plus naturel que le fait de tomber. On parle de la chute du geste, c'est vrai, mais cette chute du geste, elle ne peut pas fonctionner, on peut tomber sur la table comme ça pendant des années, il se passera, ne riez pas Alain, ne riez pas, il se passera n'importe quoi, il se passera rien du tout. Tandis que si là, et là, Bertrand Hoth est très fin parce qu'il dit, il y a des artistes de très grand talent qui soit ils ne savent pas comment ils font, soit ils le savent, mais ils n'en parlent pas et ils préfèrent, et là c'est grandiose Alain, vraiment, ils préfèrent évoquer les mystères de la musique. Alors là c'est une malhonnêteté, parce que là, ce que je vous livre, j'espère qu'il y a des pianistes ou des musiciens, parce que ça touche tous les instruments, qui prennent ce travail-là, moi je l'applique aux baguettes, je travaille aux baguettes, je malaxe les baguettes, c'est incroyable. Et là, la sonorité, je ne me reconnais pas moi-même. Je reprends, il y a toute une musculature qui naturellement se met en branle. Et tout à coup, les sons... Alors là, c'est extraordinaire, Alain, c'est que les sons, on ose faire des choses qu'on n'oserait pas faire parce que tout à coup, on a une confiance totale en son corps. C'est-à-dire que naturellement, il n'y a plus d'obstacle dans la réalisation du mouvement. Et à ce moment-là, les idées jaillissent. Et c'est là où c'est le contraire de toute formulation. C'est que vous ne dites pas en intellectuel, « Ah, je vais écrire de la musique, je vais faire une symphonie géniale. » Pas du tout. C'est votre corps qui, de lui-même, fait les choses. Et tout à coup, ce que disait j'arrête, moi je travaille quelques petits mouvements, et puis c'est tout, voilà. Et en fait, quel mouvement travaille-t-il? Il ne le dit pas. Alors, voyez, là, cette technique-là, c'est fantastique, parce qu'il y a donc, il avait puisé ça à Bertrand, il avait vu, il a étudié plein de pianistes qui ont été des successeurs de Liszt, notamment Marie-Jaël, dont le mari était l'ami de Liszt. Et à propos de Marie-Jaël, il dit, Marie-Jaël, depuis plus de 20 ans, je cherche à tirer parti de la préhension dans le toucher musical. Et Bertrand Hoth ajoute, préhension, le mot est magistralement lâché, comprenons prendre avec les doigts, c'est-à-dire prendre, les là, et donc prendre une touche, n'est-ce pas la palper, la tirer, et non la frapper, dit-il, ainsi le jeu se fait moelleux, arrondi, chantant. Et c'est ce que nous avons, je ne sais pas si Enrico Pirà nous y adapte cette technique, j'en sais rien, mais je suis sûr que d'une façon naturelle, par le toucher qu'il a, parce qu'il est musicien classique, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que Georges est fascinant, Georges Boudrin-Marguerat a un toucher monstrueux, nous le savons bien Alain, il a un toucher incroyable, d'où sort-il ce toucher? Par un miracle. Eh bien, il y a un miracle de Georges, mais il y a le miracle aussi de la qualité du travail. Vous voyez, c'est ça, c'est pas la quantité, mais cette qualité profonde de la manière de travailler. Et on dirait, c'est une banalité effrayante de dire, on apprend à travailler toute sa vie. Vrai, mais seulement comment travailler en profondeur pendant quelques minutes seulement. Quelques minutes et tout à coup la sensation physique. Parce que vous voyez ça, c'est merveilleux.
Que ça dure toute la vie, c'est qu'en fait, on n'apprend pas à travailler, on apprend à apprendre à travailler.
Alors,
c'est pour ça que, ce n'est jamais fini.
Voilà. Alors là, il y a une chose tout à fait aussi qui est extraordinaire. Il dit, Bertrand Hoth, je le cite encore, pardonnez-moi, mais il dit, la technique, a-t-on l'habitude de dire, est l'outil de la musique, mais spécifions qu'elle en est l'outil noble. Évidemment. Mais ça me paraît évident. Et à ce moment-là, quand on entend les musiciens, alors là, moi, ça devient très, très intéressant. Parce qu'on entend les musiciens, on les écoute, non seulement pour la qualité des phrases qu'ils font, etc., non pas uniquement pour le son, mais on les écoute pour la manière dont ils abordent la note. Et même si la note n'est pas bien choisie, peut-être la manière dont ils abordent, moi, me parle davantage. Et c'est pour ça qu'il y a certains batteurs, certains musiciens. Bon, je reviens à mon instrument, naturellement.
J'allais y revenir moi aussi. Alors allez-y. Oui, moi, je ne suis pas du tout pianiste, donc j'ai des excuses.
Mais moi, vous savez, je travaille le piano tout le temps. Je suis tout le temps fourré. J'écris les mélodies, tout le temps, je bricole. Avec mes moyens, je suis fasciné. Et en même temps, je vais vers ma batterie. Vous comprenez? Je reviens au piano, j'expérimente. Et à la batterie, j'expérimente cette manière d'appréhender les baguettes. Avant, j'appréhendais sur les cymbales, je travaillais sur les doigts. Et à ce moment-là, j'écoute les autres batteurs. Alors là, c'est incroyable, je les écoute sur la qualité du toucher et non pas sur la phrase. Alors il y a des phrases qui sont magnifiques et je me dis, mais quel toucher laid ! Ou alors, quel très beau toucher, mais peut-être finalement, il n'a pas encore fait la relation complète entre la phrase musicale et le toucher qui amène cette phrase musicale à s'épanouir pleinement comme un nénuphar sur un étang. Vous voyez, c'est tout ça en même temps. Alors, c'est tout ce travail, moi, qui me fascine. Vous voyez, qui fait qu'après, ce que nous entendons est une conséquence de l'admiration qu'on peut porter à une œuvre.
Mais je trouve, enfin c'est une simple parenthèse que j'ouvre, et pour en revenir à cette comparaison entre pratique du piano et pratique de la batterie, que le concept de malaxage, enfin peut-être pourrait-on en trouver un qui sonne mieux en français, mais enfin au moins voit-on bien de quoi il s'agit, devrait être utilisé davantage par un certain nombre de pédagogues. Je prends par exemple, je parlais de vidéo tout à l'heure. Bon, il y en a une aussi.
Je sais que vous aimez bien celle de Peter Hoskins, je sais.
Bon, alors
Moi aussi, d'ailleurs.
Il y en a une qui est une vidéo, une démonstration, toujours pareil, des fins pédagogiques, de ballet essentiellement, d'être Thigpen. Et Ed Thigpen vous dit qu'il faut savoir utiliser le flex, c'est-à-dire quoi ? C'est la possibilité pour les poils des balais de travailler tout seul.
Vous l'avez travaillé vous-même, Alain, je vous ai vu faire.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas le flex qui travaille, c'est précisément le malaxage du manche des balais. Et quand on dit, pour obtenir ce son aux baguettes, brrr, vous laissez tomber les baguettes. Mais ce n'est pas vrai du tout. Si on laisse tomber une baguette, on obtient dong, 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 et pas du tout brrr. Et pour faire brrr, il faut justement apprendre à malaxer.
J'espère. Là, non, écoutez, Alain, c'est un résumé. Moi, ce qui me fascine, c'est que des gens ont passé leur vie à trouver des solutions qui sont d'une simplicité. Moi, je trouve ça c'est invraisemblable. C'est d'une simplicité. Et en même temps, il faut passer des années et des années pour découvrir cette simplicité. C'est incroyable. Hein. Alors, je vous propose, Alain, d'écouter un peu de musique. Alors, retournons à Enrico Pieranunzi. Thank you.
Lenny's Pennies est une des plus célèbres compositions de Lenny Tristano. Et Lenny Tristano était évoqué, bien que l'interprétation ne se résumait pas à cet aspect des choses, par Enrico Pieranunzi à la tête de son trio, qui comprenait ce jour-là, je le rappelle, Charlie Haden à la contrebasse et Billy Higgins à la batterie. Billy Higgins, dont on aura pu admirer notamment le jeu de cymbales, qui à plusieurs reprises dans ce morceau était carrément télépathique. Il arrivait à suivre rythmiquement une ligne mélodique comme si c'était une ligne écrite qu'il avait pu apprendre par cœur avant.
Et puis le son des caisses, quand il prend les parties solo, le son de la caisse claire, même parfois en accompagnement, il joue la caisse claire. Il a un son et un toucher absolument magnifique. On dit, quand il est décédé, c'était dans le beat, il avait dit « The master is dead ». C'était le master, c'était le maître, n'est-ce pas? Alors, simplement après, bien entendu, vous allez me dire, Alain, mais il faut se délivrer du corps qu'on habite, parce que ce corps, il meurt progressivement. Plus on avance dans la vie, plus il meurt. Et vient le moment de la délivrance de ce corps, dont parle Malraux, finalement, pour transformer ce corps en une liberté. Mais finalement, il y a quand même, je vous propose, cette réflexion d'un Samuel Smiles qui dit, ce sera la conclusion de notre émission, si vous voulez bien, sème une action, récolte une habitude. Sème une habitude, récolte un tempérament. Sème un tempérament, récolte un destin.
Soutenu par Charlie Haden à la contrebasse et Billy Higgins à la batterie toujours, Enrico Pieranunzi se rappropriait un vieux et grand succès de Frank Sinatra, All the Way. Black and Blue, jusqu'à la semaine prochaine, range son décor imaginaire dans des boîtes en carton. Ce soir, Georges Pekzinski parlait des pianos, des pianistes et de l'espace qui entre eux tantôt s'allonge, tantôt se rétrécit. Il parlait d'un pianiste, Enrico Pieranunzi, donc, à travers, c'était des libérer de sa part une seule des très nombreuses séances organisées autour de cet homme depuis 30 ans, celle qui donna naissance en 1990 à Milan au disque First Song. La réalisation de cette séquence était l'œuvre de Françoise Cordet, c'était Stéphane Touvenin qui opérait derrière le tableau de bord. Ce trio se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. Thank you.